Alors, titre 2, lisons au nom du Seigneur. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force, dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison, bonnes et actives, à être soumises à leurs maris. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable. Afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves. Tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses forces. Sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as choisi ce moment, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui présente ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, débarrasser, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas en nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, nos mauvaises pensées, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que nous entendons, Seigneur. Seigneur, nous annulons, Seigneur, tout l'impact de l'ennemi dans ce lieu. Nous annulons, Seigneur, tous les mauvais esprits, Seigneur. Qu'aucun mauvais esprit ne prenne autorité en ce lieu. Seigneur, revêt tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes fils. Que ton autorité règne en ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Paul écrit à Tite, et c'est vraiment une lettre d'actualité pour les affaires de l'Église, parce que vous allez remarquer que chacun est concerné dans cette lettre. C'est ça la réalité de la parole de Dieu, c'est qu'elle reste actuelle, malgré que nous soyons plus de 2000 ans après, cette réalité est spirituelle. On va voir ensemble ce soir 6 parties. Les hommes âgés dans l'Église, les femmes âgées, les jeunes gens, les esclaves ou travailleurs, on peut traduire aussi le terme ici d'esclave par travailleur, les responsables de l'Église et pourquoi, en fait, toute cette organisation. Dans les versets 1 à 2, Paul explique à Tite ce que doit être la place des hommes âgés dans l'Église. J'aimerais que vous fassiez l'exercice de comprendre aussi que dans l'âge, dans l'homme âgé, il ne s'agit pas uniquement de la durée, mais il s'agit beaucoup plus dans la foi. Ceux qui ont un certain âge dans la foi, ceux qui sont convertis depuis un certain temps. Voici ce qu'il est demandé, c'est qu'ils soient maîtres d'eux-mêmes, qu'ils soient respectables, qu'ils soient réfléchis, qu'ils soient pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Si cela fait un moment que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parmi ces critères que nous venons de citer, vous pouvez regarder sur lequel vous avez peut-être une difficulté, sur lequel vous avez peut-être besoin d'avancer avec Dieu. Que te manque-t-il ? C'est le moment de prier pour ce qui manque. Peut-être as-tu la maîtrise de toi, mais es-tu respectable ? Peut-être es-tu réfléchi, plein de force dans la foi, mais as-tu l'amour ? As-tu la persévérance ? Il faut donc manifester les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, comme vous savez, dans Galates 5, 22, c'est la preuve même d'une maturité spirituelle avec Dieu. Que Dieu te rende fort par son Esprit Saint. N'hésite pas à demander la prière. Ça, c'est aussi une particularité de la parole de Dieu. Quand on voit un point sur lequel on est en difficulté, la première réaction, c'est de demander la prière. C'est de demander que d'autres intercèdent pour soi. C'est de demander à Dieu de changer là où nous avons des difficultés. Un des exemples qu'on peut prendre dans la parole de Dieu de quelqu'un qui avait un certain âge dans la foi, c'est l'exemple d'Abraham. Il fut un moment où Abraham a eu une foi surprenante. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode qu'il y a eu avec Pharaon ou avec Abimélec. Vous pourrez lire dans Genèse 12, 10 à 20 et dans Genèse 20, 1 à 20. Dans les deux situations, Abraham a présenté sa femme Sarah comme sa sœur. Et pourtant, c'était sa femme. Et à chaque fois, le Seigneur est intervenu pour que Sarah ne devienne pas ni la femme de Pharaon, ni la femme d'Abimélec. Et on peut dire qu'à ce moment-là, Abraham n'était pas réfléchi, plein de force dans la foi. Puisque je ne peux pas avoir peur de Pharaon, puisque j'ai Dieu avec moi. Dieu représente 1 milliard de fois Pharaon. Dieu est plus fort que toutes ces personnes. Pourquoi aurais-je peur d'un roi? Et donc, à ce moment-là, Abraham avait besoin de grandir dans la foi. Mais on voit quelques années plus tard ce que Abraham va faire pour montrer qu'il a foi en Dieu. Et ça, c'est dans Hébreux 11, versets 17 à 19. Ben, Abraham va accepter de sacrifier son fils unique qu'il a eu avec Sarah. Et je rappelle que c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. Mais Abraham va montrer sa foi à Dieu en disant, « Oui, je suis d'accord, je vais emmener mon fils et je vais le sacrifier pour toi. » Et c'est à ce moment-là que la Bible dit que Abraham trouve grâce aux yeux de Dieu, parce que là, la foi, elle est grande et elle est prémisse. Vous voyez, la Bible parle, même dans l'Ancien Testament, des trois entités que représente Dieu. La Bible parle de Dieu le Père, la Bible parle de l'Esprit Saint, la Bible parle aussi de Jésus-Christ, parce qu'on comprend avec le texte d'Hébreux que finalement, Abraham a accepté de sacrifier son fils parce qu'il croyait en une chose, en laquelle nous croyons aussi aujourd'hui, pour celui qui a accepté Jésus-Christ. Abraham croyait que Dieu peut ressusciter. Dieu pouvait ressusciter son fils. C'est pour ça qu'il a accepté de sacrifier Isaac. Et oui, les prémices du Christ dans ce qui s'est passé pour Abraham avec Isaac comme représentant le Christ qui va aller à la croix, mais surtout qui va ressusciter. Dieu soit loué qu'Abraham ait pu avoir cette vision. Les deuxièmes personnes concernées dans ce texte, ce sont les femmes âgées. Encore une fois, dans la foi, ce n'est pas seulement le nombre d'années. Alléluia. Comportement digne devant Dieu, pas médisante, ni à donner à la boisson. Sa tâche à enseigner le bien. Conduisent les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants. Mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, être soumises à leur mari. Ce que j'apprécie dans la parole de Dieu, c'est le fait que nous soyons à l'aise avec tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Parce que quand il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, dans lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, le malin est en train de vouloir s'introduire. Mais vraiment, tu penses que tu dois nécessairement être soumise à ton mari? Mais vraiment, est-ce que tu penses que tu ne peux pas prendre quelques liqueurs le soir pour t'aider à passer la journée? Difficile, les enfants, le mari, le travail, tout ça c'est difficile. Tu as le droit de faire ces choses. Mais vraiment, tu penses que tu dois passer du temps avec ces jeunes filles qui viennent tout le temps avec leurs problèmes pour t'expliquer ce qui se passe dans leur foyer? Parce qu'il faut s'occuper du mari, des enfants, de la maison et des jeunes filles. C'est fou, hein, le Seigneur, il donne. Hein. Franchement, il y a du boulot là. Mais Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce parce que si tu te mets à genoux devant le Père, c'est lui qui te donnera la force de faire toutes ces choses. C'est l'Esprit Saint qui agit. C'est plus nous qui agissons. Tu ne peux pas faire ça. Enfin, quand je lis ce catalogue, soyons sérieux, qui peut faire ça? C'est Dieu qui va agir en toi. C'est le Seigneur qui va agir en toi. Et donne l'enseignement qui vient de la parole de Dieu. Vous voyez ici, on dit bien, les femmes d'un certain âge doivent donner aux jeunes femmes la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari, en leur apprenant à aimer leurs enfants. Mais dans 1 Corinthiens 13, on nous explique que l'amour vient de Dieu. Donc tout ce que je vais expliquer à une jeune fille, ça doit être biblique. Attention, c'est biblique. Il faut tirer de ce que Dieu dit, pas de ce que moi je pense. Ça doit venir des Écritures. Et c'est une véritable grâce d'avoir les Écritures que nous avons, parce que c'est une véritable boussole pour arriver à avancer avec le Seigneur. Le plan de Dieu est un plan merveilleux. Le plan de Dieu est un plan dans lequel, vous voyez, Adam apparaît, ensuite Ève apparaît. Ève peut apparaître seule, Adam peut apparaître seul, et personne d'autre n'apparaît. Mais c'est Dieu qui doit manifester sa volonté. Ce n'est pas l'être humain qui doit aller chercher qui il doit prendre pour époux ou pour épouse, ou qu'il doit être célibataire. La réponse vient de Dieu. La soumission au mari, alors c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui est un sujet de beaucoup de discussions dans les églises. Je me souviens quand j'étais dans le cercle biblique évangélique à Lille, quand j'étais étudiant, nous avions un frère qui systématiquement, quand il fallait citer des versets bibliques, commençait toujours par dire « Femme, soyez soumises à vos maris ». Et ça provoquait toujours l'exaspération des sœurs qui étaient là. Pourquoi il cite toujours ce verset? Mais qu'est-ce qu'il a toujours avec ce verset? C'est un ordre qui vient de Dieu. Et c'est un ordre qu'il faut respecter. J'ai écouté une amie d'enfance me dire une fois qu'avant qu'elle se marie, sa mère et ses tantes lui avaient donné un conseil que dans le mariage, si ton mari se rapproche de toi parce qu'il veut s'accoupler, il faut que tu arrêtes tout et que tu ailles avec ton mari. Vous pouvez imaginer l'effet du témoignage quand un homme entend ça. Mais la parole de Dieu est une parole de vérité parce que vous voyez dans Éphésiens 5, lorsqu'on dit à la femme d'être soumise à son mari, il y a une condition aussi pour l'homme. C'est que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc ça veut dire que littéralement, il faudrait qu'il y ait dans l'Église, avec le nombre de couples qu'il y a, des croix dans lesquelles on va écrire le prénom de l'homme mort pour sa femme. Parce que Christ est allé à la croix pour mourir pour l'Église. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile? Être soumis au mari ou accepter de mourir par amour pour sa femme? Chacun sa situation. Dieu est bon. La bonté de Dieu se manifeste là. Chacun a sa part. Dans la Bible, nous avons de très beaux exemples de femmes qui ont accompagné d'autres femmes Dans la foi, on peut prendre dans les textes de Ruth 1 et 2 l'histoire de Naomi et de sa belle-fille Ruth. Ruth qui a refusé de repartir vers son village malgré le fait que le mari est mort, ils sont tous morts, mais elle a voulu rester avec sa belle-mère. Parce qu'elle avait là l'exemple même de foi d'une femme qui l'a aimée comme si elle était sa propre fille. Ça aussi, dans les relations maman-belle-fille, on doit aimer l'enfant, le mâle comme la fille, comme si c'était son propre enfant. Puisque Genèse dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils formeront une seule chair. Désormais, ils deviennent une seule chair. Donc, si je regarde le garçon, je dois regarder de la même façon la fille. Ceci est un enseignement biblique. Ensuite, on nous parle des jeunes gens. Et là, je précise encore, jeunes gens, pas seulement dans l'âge, mais surtout dans la foi. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça fait peut-être un an, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être 3 ans, ça fait peut-être 4 ans, ça fait peut-être 5 ans, mais on est peut-être jeune encore dans la foi. Je vous rappelle que dans les Écritures, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est de voir quelqu'un comme Moïse qui va quitter le peuple d'Israël à 40 ans et qui va revenir 40 ans plus tard pour les sortir d'Égypte. Vous vous imaginez ? Sa croissance spirituelle a pris 40 ans. Donc si ce que j'ai compris en 3 ans dans ma conversion me suffit à dire que je peux sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'est qu'il y a un problème d'enseignement et d'humilité, parce que ça prend du temps de grandir dans la foi. Ça prend du temps de grandir dans la foi. Les textes nous le rappellent. Je vous lis un texte, Hébreux 6, versets 1 à 3. Voici ce qui est dit. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Ici, certains disent que ce n'est pas Paul qui a écrit Hébreux. Personnellement, je pense que c'est Paul qui a écrit Hébreux, avec le style qu'il y a. Mais ici, s'il faut parler d'auteur, l'auteur rappelle que le stade adulte dans la foi, on l'a après avoir compris toutes ces choses. Est-ce que j'ai compris la foi que je dois avoir en Dieu en renonçant aux œuvres mortes? Est-ce que j'ai compris ce que signifient les différents baptêmes? Est-ce que j'ai compris ce que signifie l'imposition des mains? Est-ce que j'ai compris ce qu'est la résurrection des morts? Est-ce que j'ai compris ce que c'est que le jugement éternel? J'ai déjà 5 paliers là à comprendre. Et comprendre ces 5 paliers prennent du temps. Parce que dernièrement, nous avons quelques jeunes qui sont sortis de la communauté parce qu'ils étaient au 2e palier, la compréhension des différents baptêmes. Il faut comprendre c'est quoi les différents baptêmes. Et que Dieu nous fasse grâce que nous revenions à l'enseignement de ces 5 piliers de la foi pour que tout le monde puisse bien comprendre, avoir une base solide dans la connaissance de la parole. Et après, on peut parler des choses qui sont peut-être d'une dimension plus élevée. Mais le basique est déjà de comprendre ces 5 niveaux. De bien comprendre ce que la doctrine explique pour ces 5 niveaux. Un autre texte aussi qu'il faut comprendre quand on est jeune dans la foi, vous voyez, l'apôtre Paul donne plusieurs conseils, que ce soit à Tite ou à Timothée, qui sont des responsables d'église. Voici ce qu'il dit dans 1 Timothée 3, verset 6. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Ici, de qui parle-t-on? de ceux qui doivent être dirigeants dans l'Église. Et l'apôtre Paul est très clair là-dessus. On ne peut pas donner un ministère important à quelqu'un qui vient d'entrer dans la foi. C'est une contradiction. Parce qu'il ne comprend pas encore tout. Et quand on ne comprend pas encore tout, on est en proie au malin. Puisque le malin aussi ramène des doctrines. Vous savez que le malin aussi ramène des doctrines. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Donc, avoir un enseignement et une mise en pratique, j'insiste, l'enseignement ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer dans sa vie. Celui qui ne manifeste pas l'amour ne peut pas venir à chercher à avoir des ministères. Et vous savez, une autre chose, dans Éphésiens 4, verset 11, on nous explique que l'Église est composée de 5 ministères. 5 ministères importants dans l'Église. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les enseignants, il y a les évangélistes et il y a les pasteurs. Aujourd'hui, il y a le pasteur. Aujourd'hui, il y a un enseignant. Mais il faut que nous ayons un évangéliste, un responsable du ministère de l'évangélisation. Il faut que nous ayons un responsable du ministère prophétique. Il faut que nous ayons un responsable pour les apôtres. Et ce sont des sujets de prière. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce sont aussi des sujets pour ceux qui sont plus anciens dans la foi, sur lesquels vous devez demander à Dieu de vous montrer si cela est votre ministère. Parce que l'Esprit se révèle. Cette vision est une vision biblique. Ce n'est pas une vision qui vient d'un homme. C'est une vision que Dieu donne pour son Église. Et c'est un sujet de remerciement, puisque Dieu va doter son Église pour que l'Église soit totalement fonctionnelle. Vous l'avez vous-même remarqué que nous avons eu une période où il y a eu beaucoup d'évangélisation faite par des jeunes adultes. Mais qu'est-ce qui manquait? Après, il faut analyser les choses spirituellement. Qu'est-ce qui manquait? Mais il manquait un responsable de l'évangélisation. C'est aussi simple que ça. C'est ce que dit la Bible. Il nous a manqué, que Dieu nous pardonne, il nous a manqué d'intercéder, de trouver d'abord un responsable d'évangélisation avant de se lancer là-dedans. Pourquoi ? Le retour de Manivelle, on l'a vu. On a très vite vu comment les choses se sont déroulées après. Parce qu'encore une fois, que vous le compreniez bien, ceux qui faisaient cette évangélisation avec un certain zèle, Dieu soit loué, ne pouvaient pas être responsables de ce ministère. Pourquoi ? Parce que 1 Timothée 3,6 nous dit qu'ils sont jeunes dans la foi, ils ne peuvent pas porter un ministère. Mais que Dieu nous fasse grâce d'avoir assez rapidement un évangéliste dans notre communauté, d'avoir assez rapidement un responsable des prophètes, parce que je sais qu'il y a des prophètes dans cette église, il y a des gens qui voient des choses qui se déroulent quelque temps plus tard, des fois ils ont du mal à venir dire, des fois ils ont peur à venir dire, mais par exemple il y a des gens qui ont vu cette salle depuis très longtemps, Dieu soit loué, c'est ça le ministère prophétique. Il y a des gens qui veulent être en contact avec d'autres entités d'église, qui veulent avoir beaucoup d'échanges avec d'autres entités pour que le groupe des églises puisse grandir ensemble. Là, on est dans le ministère apostolique. Mais que Dieu lui-même suscite toutes ces vocations. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Vous voyez, lorsqu'on voit dans la parole de Dieu comment le Seigneur a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, c'est vraiment une image de ce que nous vivons aujourd'hui. L'Église est mise à part. Comme l'ont été les enfants d'Israël qu'on a sortis d'Égypte, on les a mis à part. Et ça, on peut voir une surprise dans Exode 13, verset 19. On voit que les Israélites sortent avec les ossements de Joseph. C'est bizarre, ça. Pourquoi prennent-ils les ossements de Joseph en sortant d'Égypte? Joseph avait dit, quand vous partirez, vous voyez la prophétie, Joseph, plusieurs années avant, leur dit, quand vous sortirez d'ici, vous emmènerez mes ossements. C'est curieux, Joseph était juste après Pharaon. C'est bizarre ça. La position qu'il a, une position de pouvoir, il dit au peuple d'Israël, vous allez sortir d'ici, mais vous emmènerez mes ossements. On peut voir Christ à travers cette situation. Les ossements de Joseph sortent d'Égypte. Là, on voit la résurrection parce que Joseph ressuscitera. Vous voyez les signes, comment la Bible parle de Jésus, comment la Bible parle de l'Esprit Saint depuis le début. Dieu soit loué pour cette image, pour cette Église que lui-même a façonnée en allant à la croix. Merci pour ton Église, Jésus. Ensuite, il y a les esclaves ou les travailleurs. C'est le verset 9 à 10. Il est dit, « Sois digne de confiance, faisant plus dans ton travail, sois un bon témoin. » Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'on dit, même s'il y a des difficultés, même si on te martyrise, fais-en encore plus, non pas pour le patron qui est en face de toi. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus que tu fais ça. C'est pour Jésus que tu dois être un témoin. Comment témoigner à ses collègues si on n'essaie pas de bien faire son travail? Même si on peut vivre des injustices, les injustices, on les vivra. Jésus te dit, le monde ne m'a pas aimé, il ne t'aimera pas non plus. Mais toi, sois attaché au Seigneur. Sois attaché au Seigneur. Moi, je me souviens, il y a quelques années, vous voyez comment le malin peut des fois nous faire dire des choses qui sont surprenantes. Quand je faisais des entretiens, quand j'encadrais une équipe, je faisais des entretiens, je leur disais toujours, oui, mais il faut bien travailler parce que l'entreprise, elle est loyale, elle vous paye toutefois à la fin du mois, l'entreprise est toujours là pour vous, vous avez une mutuelle, vous avez toutes ces choses. L'entreprise, quelque part, elle a une forme parfaite, elle est ceci, elle est cela, jusqu'à ce que je passe par une situation difficile dans l'entreprise pour pouvoir comprendre que j'avais à ce moment-là une très mauvaise interprétation de ce que je disais aux collègues. Vous voyez comment ça peut arriver? Ce que nous faisons dans l'entreprise, c'est pour la gloire de Dieu. Et si je peux revenir pour les jeunes, ce que je fais à l'école, c'est pour la gloire de Dieu. Il est totalement inconcevable d'aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il veut sauver ta vie, et que vous avez 2 de moyenne. Il faut être crédible. C'est lui qui va te dire, viens, moi je vais changer ta vie, je vais t'aider à avoir une meilleure note. Il faut être crédible. On ne peut pas, vous savez, on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle en la présentant comme une mauvaise nouvelle. Il faut être crédible. Mon frère, Jésus t'aime. Toujours en arrêt maladie, en train d'insulter ses collègues. Oui, celui-là, il a fait ci, celui-là, il a fait ça. Et après, je viens avec un évangile de Jean. Jésus allait à la croix pour toi, mais tu n'es pas crédible. Il ne peut pas t'entendre. Il faut être crédible. La Bible nous donne un témoignage, c'est celui d'Onésime. Onésime était un esclave. Il dépendait de quelqu'un qui s'appelle Philémon. Et il y a un livre qui s'appelle Philémon dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul incite Onésime à revenir vers Philémon, malgré le fait qu'ils avaient eu certaines difficultés. Mais l'apôtre Paul l'incite à repartir vers son maître et à travailler encore plus pour ce maître. Toutes ces choses sont faites pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas la gloire des hommes dans toutes ces choses. C'est pour le Seigneur. Chacun a sa part. Ensuite, j'arrive les versets 7 et 8 et le verset 15 dans Tite 2. Voici la part pour les responsables d'Église. Donc à ce moment-là, vous pouvez écouter ou peut-être lire votre Bible, parce que là, c'est pour moi et Jérémia, c'est du direct. Le modèle d'enseignement doit être fidèle, inspire le respect, la parole juste et inattaquable. Oh là là, inattaquable, Seigneur. Le nombre de fois que j'ai entendu des plaintes sur la partie inattaquable. Seigneur, fais-nous grâce, vraiment, qu'on ait encore plus de connaissances. Seigneur, nous te demandons une onction particulière pour pouvoir encore mieux comprendre ta parole et mieux l'expliquer. Parce qu'effectivement, quand les gens voient des failles dans l'enseignement qu'on donne, les attaques viennent en nombre. Les pharisiens essayaient toujours de piéger Jésus,
sur des questions. Il revenait à chaque fois, il réfléchissait. Comment on va le coincer, celui-là, le sabbat? Allez, on l'attaque là-dessus, ça ne tient pas. Bon, avec les femmes, qui va devenir le mari de... On l'attaque là-dessus, ça ne tient pas. Mais Jésus répondait avec un enseignement clair, précis et inattaquable. Comme nous prions pour l'Assemblée, c'est aussi un moment d'appel à la prière pour ceux qui sont en responsabilité dans l'Église. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, il y a un peu plus de 7 ans de cela, quand on a commencé à avoir des anciens dans l'Église, on avait fait un vote dans lequel j'avais eu le même nombre de voix pour devenir diacre et le même nombre de voix pour devenir ancien. Et les anciens qui étaient là avaient choisi de me mettre diacre. Sur le moment, vous comprenez la réaction. Comment ça se fait? C'est bizarre. On dirait que je les gêne. J'aurais pu être ancien comme eux. Pourquoi ne m'ont-ils pas pris? Bon. Mais voyez, la grâce de Dieu, c'est des années plus tard, lorsque Dieu permette que je devienne ancien, que je comprends et désormais je dis, Dieu soit loué qu'ils aient pris cette décision. Parce qu'effectivement, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Ce sont des ministères pour lesquels il faut être prêt, parce que des coups, vous allez en prendre, oh Seigneur. Des coups, vous allez en prendre. Mais il faut aimer ceux qui vous donnent des coups. Il faut prier pour ceux qui vous donnent des coups. Il faut prier pour ceux qui vous critiquent. C'est là où Dieu vous attend. Et il faut être prêt. Il faut être prêt à vivre ces choses. Vraiment, merci Seigneur. Pour tout ce temps, ça a pris des années et des années. Dieu soit loué. Et Dieu soit loué pour ceux qui viendront après, qu'il les prépare. Il y a une autre partie aussi qui est importante. Vous voyez, le verset 15 dit, tu dois reprendre les gens. Tu dois manifester l'autorité. Ça, c'est aussi une partie très difficile. Comment manifester l'autorité dans l'Église? Comment manifester l'autorité avec amour dans l'Église? Mais comment ne pas laisser passer certaines choses aussi? Parce qu'à un certain moment, des frères ou des sœurs ont dit, mais pourquoi vous avez laissé faire ça? Ah Seigneur, ah Seigneur, que dois-je dire? Que dois-je ne pas dire? Que dois-je faire? Que dois-je ne pas faire? La conduite, elle vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Mais la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile. Et nous voulons élever Jésus. Nous voulons élever Jésus parce que c'est justement de nos infirmités qu'il s'est chargé à la croix. Vous comprenez toute cette infirmité dans la responsabilité qu'on peut avoir dans l'Église. C'est Jésus qui a pris ça à la croix. Et c'est lui qui nous fait grâce. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, ne promène pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu soit loué pour ces paroles qui nous aident à avancer. Un exemple dans la parole de Dieu, de responsable d'église qui était très puissant dans leur ministère, c'est celui de Paul et de Pierre. Vous voyez comment Paul et Pierre ont bâti, mais vraiment, ils ont fait un travail d'arrache-pied. Paul n'a cessé de voyager partout, il n'a cessé d'enseigner, il n'a cessé d'écrire. Quand on voit ces choses, on se demande, mais ce gars-là, est-ce qu'il dormait des fois? C'est pas possible d'écrire autant de choses, d'être dans la prière, dans l'enseignement. Tout ce que Pierre a fait avec les apôtres, ceux de Jérusalem, qui ont été transformés, les appels, les impositions des mains des malades, mais toutes ces choses, comment arrivait-il à le faire? Oui, l'Esprit de Dieu était avec eux. L'Esprit de Dieu était avec eux. Et sur l'imposition des mains, vous voyez, ça fait partie aussi de la connaissance qu'on doit avoir pour arriver à l'état adulte. Si vous avez des questions sur l'imposition des mains, je vous invite à venir nous voir pour avoir un enseignement. Parce qu'on n'impose pas les mains sans connaître la parole, sans être soi-même aussi disposé. On va imposer les mains à un certain moment pour quelqu'un qui est malade. Il y a plusieurs personnes dans cette assemblée à qui j'ai imposé les mains. Il y a des gens qui ont été guéris, il y en a d'autres qui n'ont pas été guéris. Ces choses, il faut les comprendre. Parce que finalement, c'est qui guérit? C'est Dieu. Il ne faut pas se tromper. C'est qui donne l'Esprit Saint? C'est Dieu. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un homme. Nous ne suivons pas un homme. Nous suivons Jésus-Christ qui est allé à la croix. C'est lui qui est Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs dans les mains de Dieu.
Enfin, les versets 11 à 4 nous parlent du salut.
Les versets 11 à 4 nous parlent du salut. Toute cette organisation est faite pour que les gens vivent avec le salut dans leur cœur. Celui qui croit sera sauvé. Si j'ai placé toute ma confiance en Jésus-Christ, je suis sauvé. Je n'ai pas besoin d'attendre encore un autre instant pour comprendre que je suis sauvé. Le brigand à la croix, Jésus lui a dit, « Tu seras avec moi au paradis. » Si je place toute ma confiance en Jésus, je suis sauvé. Vous voyez, Jésus a pris aussi une parabole qu'il expliquait aux disciples. C'est dans Luc 10, 25 à 37. C'est la parabole du bon samaritain. Une parabole qui est riche d'enseignements de son passé avant le bon samaritain. Ils n'ont rien fait pour celui qui était battu, qui était par terre. Mais celui qui est battu, qui est par terre, qui c'est? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Lorsque nous étions dans le péché, et le bon samaritain, mais c'est Christ qui vient te prendre pour te sortir du péché dans lequel tu es. Et il t'emmène à un lieu, il t'emmène à un autel où il va donner deux pièces. L'autel, c'est l'église. C'est pour ça qu'à un certain moment, on voit des enseignements sur Internet qui disent « Non, il ne faut plus aller à l'église, il faut rester à la maison, faire sa petite communauté à la maison. » Voilà, ça ce sont des hérésies. Ce sont des hérésies parce que Christ veut nous voir ensemble. Je ne peux que mieux grandir avec mes frères et sœurs. Sinon, ils m'auraient mis sur une petite île, seul, Robinson Crusoe, sans femme, sans... Voilà. Non ? Donc, cet autel dans lequel on a déposé, ce n'est que l'église. Et Christ dit, je donne deux pièces. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Je reviens. Je reviens. Je reviens pour te chercher. Donc Christ revient dans sa gloire et tout genou fléchira. Ce soir, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent d'aller vers Jésus. Je t'invite à venir à la fin du culte. Je t'invite à venir prier parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Jésus revient. C'est la Bible qui le dit. Dans quelle disposition Christ te trouvera-t-il?
En conclusion, acte 2 nous dit, verset 45, ils se réunissaient tous les jours.
Les frères se réunissaient tous les jours. Nous, aujourd'hui, des fois, on nous parle de deux réunions dans la semaine, ça commence à être tendu là. Là, on parle de frères qui se réunissaient tous les jours, ils partageaient le pain tous les jours. Donc, si vous êtes dans cette communauté depuis un certain temps, la question dans quel groupe de maison vous allez, il faut que vous soyez dans un groupe de maison parce que les frères se réunissent. Nous avons le groupe le mardi soir, nous avons les jeunes adultes le mercredi, nous avons la réunion de prière le jeudi soir, nous avons la prière le dimanche matin. Nous avons la réunion le vendredi soir. Nous avons la réunion le samedi soir. Nous avons un groupe de femmes. Nous avons un groupe d'hommes. Mais tout ça, alléluia, il faut se réunir tous les jours. C'est ce que Dieu attend de nous.
Quelle est ta place dans ces groupes? Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut changer ta vie. Ce soir, il faut que tu rentres à la maison avec quelque chose qui a changé dans ta compréhension de la parole de Dieu, dans ce que tu vas mettre en pratique pour être un bon témoin de Dieu.
Il faut que tu travailles mieux au travail. Il faut que tu sois resplendissant dans ta maison. Il faut que tu manifestes les caractères du Christ dans ta vie. Et si tu n'y arrives pas, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider.
Termine en vous lisant Colossiens 3, versets 1 à 24. Voici ce qui est dit. Ainsi donc, vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi débarrassez-vous de tout cela. Colère, comportement, méchanceté, insulte, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave ou l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs, le règne, la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en vous offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez... à vos parents, cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risquerez de les décourager. Vous les esclaves, les travailleurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres d'ici-bas, non pas seulement sous leurs yeux par souci de plaire aux hommes, mais dans la simplicité de votre cœur en craignant le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Celui qui fait le mal récoltera le mal qu'il aura fait, car Dieu est impartial. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'entendre ta parole. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Je remets cette communauté entre tes mains, Seigneur. Dans Éphésiens 1, tu as béni ton Église, Seigneur. Nous savons combien tu nous as bénis, Seigneur. Combien tu as pourvu, Seigneur, à tous nos besoins spirituels, Seigneur. Pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Touche le cœur de chacun, Seigneur. Remplis le cœur de chacun, Seigneur. Que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi. Que ceux qui te connaissent puissent avancer avec toi, Seigneur. Et tout ceci, nous le demandons. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.